l'après-midi, le secrétaire général va vous faire un exposé sur la ministérielle. Il sera ensuite à votre disposition pour toute question. Bon après-midi. Durant cette semaine, les ministres des Affaires étrangères vont se réunir à Washington, D.C. afin de commémorer le 70e anniversaire de l'Alliance. Demain, je vais rencontrer le président Trump à la Maison-Blanche. Mercredi, tous les ministres des Affaires étrangères sont invités à une session du Congrès des États-Unis, durant laquelle je ferai un exposé au nom des 29 pays. Mercredi soir, nous allons tous nous réunir dans l'auditoire Mellon, où les 12 pays membres ont signé le traité de l'Atlantique Nord en 1949. Il s'agira là d'une occasion de commémorer 7 décennies de paix, de prospérité pour nos pays. Et ce sera également l'occasion de regarder vers l'avenir ensemble. Jeudi, nous allons tout d'abord traiter de la question des relations de l'OTAN avec la Russie qui continue à violer le traité FNI en développant et en déployant des missiles SS-C8. Ces missiles qui sont difficiles à détecter, qui réduisent le seuil par rapport à l'utilisation des armes nucléaires et nuisent à notre sécurité à tous. La Russie continue à ignorer nos appels à revenir à la conformité des modalités de traité FNI et l'horloge tourne. Nous allons donc discuter des étapes que l'OTAN sera appelée à prendre à l'avenir. L'Alliance reste vivement engagée à respecter la maîtrise des armes, mais nous devons assumer également une défense et une dissuasion crédible et efficace. Nous sommes également préoccupés par cette répétition d'attitudes agressives de la part de la Russie, y compris les actions de la Russie à l'encontre de l'Ukraine, la capture des bâtiments et marins ukrainiens dans la mer d'Azov. L'OTAN a renforcé déjà sa présence en mer Noire et travaille en étroite coordination avec ses partenaires dans la région. La semaine dernière, j'ai moi-même eu l'occasion d'observer cette coopération lors de l'exercice OTAN-Géorgie 2019. Aujourd'hui, des bâtiments d'un groupe naval de l'OTAN naviguent au large de l'Ukraine et de la Géorgie. Ces bâtiments participeront à l'exercice Sea Shield en mer Noire. Les ministres sont appelés à approuver cette semaine de nouvelles mesures afin d'améliorer notre connaissance de la sécurité de la situation dans la région et de renforcer le soutien apporté par l'OTAN à l'Ukraine et la Géorgie dans des domaines que la formation des forces maritimes, des gardes côtiers, des visites portuaires, des exercices et un meilleur partage d'informations. Les ministres vont également discuter du rôle de l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme et des efforts déployés par les États-Unis afin d'arriver à un règlement pacifique en Afghanistan. L'ambassadeur Khalilzad a participé à des consultations ici avec l'OTAN la semaine dernière et pour la quatrième fois. Et le commandant de la mission Resolute Support ainsi que le haut représentant civil de l'OTAN à Kaboul coordonne étroitement et régulièrement avec l'ambassadeur Khalilzad. Nous sommes à entrer en Afghanistan, nous avons participé à la mission en Afghanistan ensemble et la décision en ce qui concerne notre présence future sera prise ensemble. Nous restons également unis dans la lutte contre Daesh et nous avons accompli des progrès majeurs. Des millions de personnes ont été libérées de l'oppression et ce groupe terroriste ne dispose plus d'aucun territoire, mais nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers. Nous devons poursuivre notre formation en Irak pour faire en sorte que Daesh ne puisse jamais revenir. Des centaines de formateurs des pays de l'Allié et des pays partenaires sont déployés sur le terrain et apportent un appui au ministre de la Défense, au bureau du Conseil de sécurité nationale et dans des académies militaires. La formation des forces locales est un de nos instruments les plus précieux dans la lutte contre le terrorisme et nous nous engageons à poursuivre cet effort avec nos partenaires proches de la région, la Jordanie et la Tunisie, ainsi que d'autres. Nous allons boucler la réunion des ministres des Affaires étrangères par une séance consacrée au partage du fardeau. Après des années de réduction de plusieurs milliards dans les budgets de la défense, nous dépensons davantage de milliards maintenant. Et cela fait 4 années consécutives que ces investissements ont augmenté. Depuis 2016, les alliés européens et le Canada ont contribué à 41 milliards de dollars de plus dans le budget de la défense. D'ici la fin de l'année prochaine, ceci atteindra 100 milliards de dollars. Les alliés investissent davantage en capacités majeures dans le domaine de la défense antimissile, de drones et d'avions de combat. Et l'OTAN vient d'approuver un nouvel investissement important dans le cadre de l'infrastructure militaire. Nous allons investir plus de 260 millions de dollars américains dans un projet en appui des forces américaines en Pologne, au centre de la Pologne, pour financer le stockage et l'entretien des équipements militaires prépositionnés afin d'accélérer le renforcement en Europe. Ceci s'inscrit dans le cadre d'un tableau plus général, à concurrence de 2,3 milliards de dollars de financement pour les projets de mobilité militaire dans les années à venir. Donc les alliés se renforcent et consacrent davantage et mieux à la défense. Mais il reste encore du terrain à parcourir et nous ne pouvons baisser la garde. Depuis plus de 70 ans, les liens entre l'Europe et l'Amérique du Nord ont permis à l'OTAN d'être l'alliance la plus forte de l'histoire. Dans un monde imprévisible, c'est au quotidien que nous devons prévenir les conflits, préserver la paix pour à peu près 1 milliard de citoyens. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Nous allons commencer par James, troisième rang. Merci, représentant de Jane Stephens. Je reviens sur les mesures de la mer Noire afin de renforcer la sécurité. Vous avez parlé de plusieurs mesures, y compris les visites portuaires. Sachant que la mer d'Azov est une mer libre et ouverte, est-ce que l'OTAN ne pourrait pas envoyer des bâtiments pour effectuer des visites portuaires à Mariupol? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un contrôle qui est de facto plus ou moins accordé à la Russie? Alors pour l'OTAN, ce qui est important, c'est que le droit international soit respecté, le droit de la mer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réagi si vivement lorsque la Russie a capturé ces bâtiments ukrainiens et a arrêté des marins. C'est la raison pour laquelle nous continuons à insister pour que la Russie libère les bâtiments et les marins. Je l'ai dit, nous avons renforcé notre présence dans la mer Noire. Notre présence maritime s'est renforcée. Nous avons différents groupes d'intervention maritime qui participent à des exercices et qui effectuent des visites portuaires en Ukraine à l'heure actuelle et en Géorgie. Mais si vous permettez, je ne vais pas faire de commentaires sur les ports qui feront l'objet de ces visites, ni quand ni comment. Je me contenterai de vous dire que nous sommes présents dans la mer Noire. Et nous invitons tous les pays de la région, y compris la Russie, à respecter le droit international. Deutsche Welle, madame, troisième ou quatrième rangée, dans un rapport rédigé par 2 anciens ambassadeurs américains auprès de l'OTAN, Nick Burns et Doug Wood, ils ont conclu, après avoir interviewé 12 personnes de part et d'autre de l'Atlantique, la menace la plus importante à laquelle devait faire face l'OTAN, c'est l'absence d'un leadership présidentiel aux États-Unis. Et ceci, tenant compte de tout ce que vous avez dit, de l'augmentation des dépenses sur le terrain, du renforcement en termes d'effectifs. Donc, même aux yeux des experts, cela reste pour eux le problème majeur de l'OTAN. Est-ce que cette perception, ne fût-ce que la perception, constitue une faiblesse pour l'Alliance? Alors, l'OTAN, c'est une alliance de 29 démocraties avec des points de vue, des experts, des points de vue différents sur plusieurs choses. Et une société ouverte, ça signifie des discussions ouvertes également en ce qui concerne les atouts, les faiblesses, les défis. Alors, il est possible, ou toujours, il y aura des experts, certes, qui auront des appréciations différentes de la situation et des défis à l'avenir. Je suis néanmoins intimement convaincue que ce que nous observons actuellement, c'est un engagement fort de la part des États-Unis à l'égard de l'OTAN. Et je vous le dis parce que c'est ce qui a été répété, redit par le président à moult reprises. Par exemple, dans son discours State of Union, il a répété qu'il restait engagé auprès de l'OTAN lors de la réunion du sommet de Bruxelles, mais également un soutien à des deux parties du Congrès américain à l'égard de l'OTAN. Et ceci se confirme par une augmentation de la présence des États-Unis en Europe. Et pour moi, ce sont là les manifestations les plus fortes que l'on puisse imaginer de l'engagement des États-Unis auprès de l'Europe. L'envoi de troupes plus importantes avec une nouvelle brigade blindée en Europe et les fusiliers marins américains déployés en Norvège. Ça n'a jamais été le cas précédemment. Donc on ne peut tout juste pas dire que les États-Unis ne sont pas engagés puisqu'il y a eu une augmentation de la contribution des États-Unis auprès de l'OTAN avec, en termes de troupes, d'exercices. Je vous ai parlé des investissements dans de nouvelles installations, de nouvelles infrastructures de l'OTAN pour une présence américaine en Pologne. Un des programmes d'investissement les plus importants depuis ces dernières années. J'ai parlé de 2,3 milliards de dollars d'investissement en infrastructure. Tout cela est essentiellement lié à la présence américaine en Europe. Et le fait que je vais pouvoir m'adresser au Congrès mercredi, je considère cela comme l'expression des deux parties, d'un réel engagement et d'un soutien apporté par le Congrès à l'OTAN. Alors, je connais très bien ces deux ex-ambassadeurs. Parfois, je suis d'accord avec eux, pas toujours, mais les faits sont là. Les faits sont que l'Amérique du Nord et l'Europe sont appelés à vivre ensemble encore beaucoup d'années. Washington Post.
Michael Birnbaum du Washington Post. Si l'Allemagne consacre 1,5% de son PIB à la défense en 2024, c'est ce qui est prévu actuellement, est-ce que cela suffirait pour que l'Allemagne réponde à ses engagements en matière de défense pour l'OTAN? Je pense que l'Allemagne, ensemble avec les autres alliés, doit répondre aux engagements qui sont pris avec d'autres alliés. Cela porte sur les budgets ainsi que sur les capacités. Donc, je m'attends à ce que ces pays respectent les objectifs fixés en matière de dépenses. Ils ont soumis des plans nationaux. L'Allemagne l'a fait aussi pour illustrer comment, sur le moyen terme, l'Allemagne va augmenter ses dépenses de défense de 8% sur le moyen terme. De plus, il y a des objectifs capacitaires et nous pensons que l'Allemagne, tout comme d'autres alliés, s'est engagée à des objectifs capacitaires et donc va consacrer les financements nécessaires pour les concrétiser. Je vais continuer à suivre ces questions dans toutes mes rencontres avec les dirigeants de l'OTAN, que ce soit à Berlin, à Rome, à Paris et dans tous les pays alliés, afin de m'assurer que lorsque l'on parle du partage du fardeau, un partage de fardeau équitable, cela passe non seulement par les financements, mais par les contributions, notamment aux missions et opérations, ainsi que les capacités, les objectifs capacitaires. L'Allemagne met à disposition davantage de contributions aux opérations et aux missions de l'OTAN que par le passé. L'Allemagne restera l'un des principaux contributeurs en Afghanistan et dirige l'un des groupements tactiques dans les pays baltes. Il se charge également de la force à très haut niveau de préparation, la VJTF, qui a été certifiée à l'exercice Trident Juncture en Norvège. Donc l'Allemagne réalise des contributions importantes à l'Alliance. La télévision géorgienne. Concernant la sécurité en mer Noire, un responsable de l'OTAN a indiqué la semaine dernière que dans la ministérielle cette semaine, les ministres vont approuver de nouvelles mesures de coopération avec la Géorgie concernant la sécurité en mer Noire. Avez-vous des précisions à cet effet? De quelles mesures s'agira-t-il? Tout d'abord, il faut d'abord que les ministres se réunissent avant d'avaliser quoi que ce soit, mais je pense qu'effectivement, il y aura un accord parmi les ministres. Ces mesures porteront sur l'entraînement, donc le même type d'exercice que celui qui se déroule actuellement. Il y avait un exercice avec la Roumanie, il y avait aussi plus récemment un autre exercice auquel j'ai pu assister. Un exercice conjoint autant à Géorgie. Cela fait une semaine. Cela portera sur l'entraînement de forces maritimes, notamment. D'ailleurs, l'OTAN donne un appui aux gardes côtiers de la Géorgie. Nous allons renforcer cet appui-là. D'ailleurs, nous l'avons évoqué ensemble lors de mes visites à Tbilissi il y a peu de temps. Donc, il s'agit d'entraînement et de formation pour les forces maritimes ainsi que pour les gardes côtiers. Par ailleurs, il s'agit d'escales, de visites portuaires, ainsi que la participation dans de différents exercices. Par exemple, l'année dernière, en 2018, des bâtiments de l'OTAN ont passé 120 jours en mer Noire, ce qui représente une augmentation importante par rapport aux 80 jours qui ont été passés en mer Noire en 2017. C'est une augmentation de 50% en ce qui concerne le nombre de jours passés en mer Noire, ce qui illustre déjà une présence physique. Cela renforce notre connaissance de la situation. Et lorsque nous sommes en mer Noire, nous menons des activités avec nos partenaires, l'Ukraine et la Géorgie, ainsi que les trois alliés qui ont une frontière sur cette mer, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie. Toutes ces activités sont pertinentes pour ces trois alliés aussi, qui renforcent leur capacité maritime. Troisièmement, il s'agira d'un partage d'informations. Afin d'avoir une meilleure connaissance de la situation possible, il faut pouvoir suivre ce qui se passe dans la région pour les trois alliés littoraux, pour les trois pays riverains notamment. Kurdistan 24. Avez-vous de nouvelles informations concernant la mission de l'OTAN en Irak, notamment dans la région du Kurdistan? Le président Trump a annoncé quelque chose à cet effet. Comment réagissez-vous? Bon, vous avez posé une question par rapport à la mission de l'OTAN en Irak. L'OTAN est membre de la coalition mondiale contre Daesh. Tous les alliés participent dans cette coalition. Et l'OTAN a accordé un soutien à de différents titres à cette coalition. Coalition qui d'ailleurs a effectué des progrès remarquables. Il y a quelques années, en fait quelques mois, Daesh avait une emprise territoriale sur une zone équivalente à la superficie du Royaume-Uni. Il y avait des millions de personnes qui vivaient dans ce territoire, alors qu'aujourd'hui, Daesh n'a plus aucun contrôle sur le territoire de la région, grâce aux efforts déployés par cette coalition. C'est déjà une réussite majeure. Mais cela n'indique pas que la lutte contre le terrorisme a pris fin. Nous ne pouvons pas baisser le bras. Nous savons très bien que ce groupe va essayer de mobiliser un soutien pour son idéologie perverse ce groupe Daesh a une présence dans d'autres pays, notamment l'Afghanistan. Donc, nous allons mener la lutte contre Daesh dans de différentes parties du monde. Et nous devons faire en sorte que Daesh ne puisse jamais se rétablir une présence, notamment en Irak et en Syrie. Voilà pourquoi nous menons des formations pour les forces irakiennes, car nous estimons que la meilleure façon de stabiliser l'Irak, ou c'est la stabilisation de l'Irak plutôt, qui est la meilleure façon de faire en sorte que le pays ne soit plus jamais menacé par Daesh. Il s'agit de renforcer les capacités locales. C'est ce que nous faisons en Irak. Voilà donc pour la mission de formation et d'entraînement en Irak et le soutien à la coalition mondiale contre Daesh. Comme vous le savez, l'OTAN en tant qu'alliance n'est pas présente dans le nord de la Syrie. Certains alliés le sont sur un plan national. En même temps, les avis divergent parmi les alliés quant aux défis qui se posent en Syrie. Mais je me félicite de voir que les alliés se consultent, mènent des discussions à ce sujet, mais loin de moi d'entrer dans des considérations détaillées à cet égard, ce qui risquerait de compliquer ce dialogue. Irina Somar, Interfax de l'Ukraine. Le 16 mars, le président Poroshenko a envoyé une lettre de félicitations, qui vous a envoyé en fait une carte de vœux pour votre anniversaire. Au troisième paragraphe, il a indiqué que à Londres, lors du sommet, il va soulever à nouveau la question du plan d'action d'adhésion pour l'Ukraine. Quel est votre point de vue? Est-ce que vous estimez que c'était une demande officielle ou simplement une carte de vœux? Deuxièmement, souhaitez-vous faire des commentaires suite au premier tour de la présidentielle en Ukraine où un acteur comique a remporté 30% des suffrages? Tout d'abord, j'étais très heureux de recevoir ces vœux du président Poroshenko. Tant que je suis plus jeune que l'Alliance, eh bien, je me sentirai encore assez jeune. D'ailleurs, je pense que cela restera le cas pendant un certain temps. Quant à l'Ukraine et son adhésion à l'OTAN, nous reconnaissons cette ambition, ces aspirations de la part de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Nous allons travailler avec l'Ukraine afin que ce pays puisse avancer dans son intégration dans la zone euro-atlantique. C'est cela qui explique l'existence des différents cadres, des différents programmes de partenariat afin d'épauler l'Ukraine et l'aider dans son défi le plus important, c'est-à-dire la réforme. Afin de se moderniser, de répondre aux normes de l'OTAN, nous aidons le pays à moderniser ses institutions de sécurité et de défense. Nous avons des fonds d'affectation spéciale, toute une série de programmes de formation pour l'Ukraine. Ça, c'est de la part de l'OTAN. Et ensuite, sur le plan bilatéral, il y a un soutien d'un grand nombre d'alliés aussi. Nous estimons que nous devons se concentrer sur cet aspect-là, sur la réforme, sur les efforts de modernisation pour que l'Ukraine modernise ses institutions de défense, et cela passe aussi par la lutte contre la corruption. Voilà donc l'accent central. Quant à la réunion plus tard cette année à Londres, en décembre, ce ne sera pas un sommet à part entière, ce sera une réunion brève. Nous allons nous réunir afin de marquer le 70e anniversaire de l'Alliance. Nous allons nous réunir à Londres, car Londres abritait en fait le premier siège de l'organisation. Et quant aux élections, les élections, eh bien, ne sont pas encore terminées. Et donc, il ne serait pas tout à fait approprié pour moi d'émettre des commentaires à cet égard. Il reste encore un deuxième tour. L'OTAN, dans l'OTAN, les pays membres, les partenaires ont des élections presque tout le temps. C'est d'ailleurs bien normal pour des pays démocratiques. Le plus important, c'est que les élections soient menées de façon libre et juste. Et je pense qu'il faut attendre les résultats définitifs avant d'émettre des commentaires. Le Soir. Philippe Renier from Le Soir. Concernant la nouvelle infrastructure militaire en Pologne, est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui représente un changement de donne par rapport au bataillon qui assure une présence par rotation? Et si oui, est-ce que cela représente une escalade vis-à-vis de la Russie? Ensuite, concernant le traité FNI, est-ce qu'il y aura des décisions lors de la réunion de Washington concernant ce qui doit être fait si jamais la Russie ne se remet pas en conformité avec ce traité? Ces investissements pour les infrastructures dans la partie centrale de la Pologne s'inscrivent dans un effort plus vaste afin de renforcer notre mobilité militaire. C'est l'un des aérodromes militaires les plus importants de la Pologne. Nous allons investir dans de différents sites afin de favoriser le stockage et la maintenance des équipements. Et c'est grâce à ces équipements prépositionnés que nous pouvons accroître la réactivité de nos forces. Cela nous permet de mobiliser plus rapidement des troupes ainsi que des équipements. Cela fait partie donc d'un processus en cours. L'OTAN travaille sur la mobilité militaire, travaille sur les infrastructures, notamment de transport, mais nous travaillons aussi sur le prépositionnement d'équipements lourds. Il s'agit aussi d'améliorer les infrastructures portuaires, les aérodromes, etc., toutes les infrastructures qui sont nécessaires pour déplacer des forces à travers l'Europe. Cela s'inscrit dans cet effort-là. C'est un investissement à grande échelle qui illustre d'ailleurs comment l'OTAN travaille avec les États-Unis. Car il s'agit en fait d'une présence sur le plan bilatéral de la part des États-Unis, mais avec un soutien en termes d'investissement d'infrastructures de l'OTAN. C'est une bonne nouvelle pour tous. Quant au traité FNI, je pense que les ministres seront très clairs. Ils vont émettre un message très clair vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire que la Russie doit se remettre en conformité avec ce traité qui constitue une pierre angulaire pour la sécurité européenne. C'est un traité absolument fondamental pour toute l'architecture de la maîtrise des armements. Cette pierre angulaire se trouve maintenant fragilisée vu les violations de ce traité de la part de la Russie avec son déploiement de ses missiles. Le processus de retrait de ce traité, annoncé au mois de février, couvre un préavis de 6 mois avant la dissolution du traité. Donc, il reste encore du temps pour la Russie de se remettre en conformité. Je pense donc que les ministres seront limpides sur ce point-là, la conformité de la part de la Russie. En même temps, je pense que les ministres seront très clairs sur le fait que l'OTAN doit se préparer à l'éventualité de la fin de ce traité, la présence de davantage de missiles russes en Europe. Nous prendrons des mesures coordonnées, agréées. Cependant, nous n'avons aucune intention de déployer de nouvelles missiles de lancement terrestre en Europe. Toutefois, l'OTAN doit toujours être à même d'assurer une dissuasion et défense crédible, même après la fin du traité FNI.
Kabul Times. Merci. Vous avez parlé de la visite de l'ambassadeur Khalilzad en ce qui concerne les négociations de paix en Afghanistan. Vous avez également dit que l'OTAN et les États-Unis avaient été en Afghanistan ensemble et qu'ils vont faire leur plan pour l'avenir. Est-ce que cela signifie que si les États-Unis devaient décider de retirer leurs troupes en Afghanistan, l'OTAN suivrait cet exemple? Vous avez dit que Daesh était très actif en Afghanistan et c'est vrai, la situation est pire que jamais. Alors, quels sont vos projets? Est-ce que l'OTAN, dans la lutte contre le terrorisme, sachant que Daesh ou Al-Qaïda ou d'autres groupes d'insurrection sont encore présents en Afghanistan. Eh bien, la prochaine étape dépendra évidemment grandement des avancées dans le processus de paix. Et puisqu'il s'agit de négociations qui sont en cours pour le moment, personne ne peut prédire l'issue de ces négociations. Nous n'avons donc en l'occurrence pas pris de décision puisqu'elle sera largement tributaire des avancées liées au processus de paix. par rapport à l'accord et au moment où il sera obtenu. Par contre, ce que nous avons dit clairement, c'est que nous restons engagés par rapport à cette mission en Afghanistan. Les alliés de l'OTAN ont mis à disposition des troupes pour cette mission. Nous avons d'ailleurs augmenté le nombre de formateurs OTAN en Afghanistan, car nous savons que la meilleure façon d'œuvrer pour une solution pacifique, c'est que le message aux talibans, communiqué aux talibans, c'est qu'ils ne vont pas l'emporter sur le champ de bataille. C'est la raison pour laquelle nous contribuons à la formation des forces afghanes. Et dans cet effort, nous mettons à disposition tous les éléments nécessaires et les poids par rapport aux négociations que nous espérons de tous nos voeux et qui nous permettra après, évidemment, de réduire notre présence en Afghanistan. Quant à question de quantité ou quand ou de calendrier, je pense que ce serait prématuré de vous donner des réponses. Vous savez que dans la négociation, il y a l'importance. Ce qui est important, c'est que l'Afghanistan ne redevienne jamais un sanctuaire pour le terrorisme international, de mettre en place les mesures pour éviter cela. Cela, évidemment, est lié à la présence des troupes internationales, de l'OTAN. Mais un autre problème tout aussi important, c'est une réconciliation afghane. Aucune paix durable ne sera possible sans réconciliation à laquelle doit s'associer le gouvernement afghan. Et ça, c'est incontournable. Donc, nous sommes en étroite collaboration avec les États-Unis, coopération. Le message émanant de tous les alliés de l'OTAN, y compris les États-Unis, c'est que nous sommes entrés ensemble dans cette opération et que la décision sera prise ensemble, mais comme je l'ai dit, cela est largement tributaire de ce qui se passera à la table de négociation. Et nous devons, comme nous nous y sommes engagés, apporter le soutien aux forces de sécurité afghanes et poursuivre un engagement financier. Nous avons pris cet engagement jusqu'à 2024. Dans ces conditions, nous restons engagés, oui. Mais nous ne voulons pas rester en Afghanistan au-delà du temps nécessaire. Mais pour cela, il faut que les conditions propices soient mises en place. Associated Press. Lankok, Associated Press. Alors, vous venez d'avoir votre mandat prolongé, Monsieur le Secrétaire général, essentiellement grâce à votre capacité à gérer ces réunions très difficiles, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Alors, il vous reste 3 ans. Je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous avez à maintenir cette cohésion avec des dirigeants parfois très charismatiques et très qui s'affirment beaucoup comme le président Trump ou le président polonais. Et les défis viennent-ils pas parfois plus de l'intérieur que de l'extérieur? Alors, je serai franc avec vous. Je dois reconnaître qu'il y a des divergences entre les alliés de l'OTAN, entre les pays de l'OTAN. On ne peut en aucun cas l'ignorer. Il suffit de lire la presse ou de regarder la télévision et on voit que les alliés divergent sur plusieurs questions. Il y a des divergences majeures sur le commerce, l'énergie, les changements climatiques, l'Iran, l'accord avec l'Iran sur les questions nucléaires et pour ne mentionner que celle-là. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y existe des divergences entre les alliés de l'OTAN. Cela fait partie de notre histoire depuis les décennies, car après tout, nous sommes 29 pays différents de part et d'autre de l'Atlantique, avec une histoire, une géographie, des partis politiques différents. Et les différences ne sont pas quelque chose de nouveau. Il y a eu des différences en 1956 sur la crise du canal de Suez ou lorsque la France, en 1966, a décidé de quitter les accords de coopération militaire de l'OTAN. Nous avons eu des problèmes en 2003 lorsque sur la guerre d'Irak, certains alliés étaient pour, d'autres étaient vivement opposés à ces guerres en Irak. Mais l'atout majeur de l'OTAN, c'est qu'en dépit de ces divergences, nous avons tous pu rester unis par rapport à nos tâches essentielles qui sont d'assurer la protection et la défense de nos territoires. Car nous voyons que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons rester assurer la sécurité de chacun d'entre nous et notre force. Et surtout dans un monde où naissent de nouveaux défis, il y a un changement dans l'équilibre du pouvoir, l'importance que prennent les nouvelles technologies, pour ne mentionner que l'intelligence artificielle. Et nous voyons également que la lutte contre le terrorisme, et il y a également une Russie de plus en plus qui affirme sa volonté. Donc je ne nie pas, certes, le fait qu'il y a des différences et des divergences entre nous, mais le message, mon message, c'est que vous voyez que l'OTAN arrive à surmonter ces divergences. Bon, le mieux, évidemment, ce serait de les régler sur le commerce, etc. Mais tant qu'on ne peut pas les régler, et tant qu'il reste des divergences et des désaccords, eh bien, mon objectif, ma mission principale, c'est que nous puissions continuer à assumer notre mission essentielle qui est la défense et la sécurité de nos populations. Et c'est ce que nous faisons. Et justement, c'est en dépit de toutes ces différences que nous voyons que l'Amérique du Nord et l'Europe coopèrent davantage qu'elles l'ont fait durant des décennies. J'ai dit qu'il y avait un plus grand investissement, une plus grande présence des États-Unis en Europe, une meilleure, plus grande contribution dans la lutte contre le terrorisme, la modernisation de l'Alliance. Donc je ne dis pas, entendons-nous bien, qu'il n'y a pas de divergence entre nous. Je dis simplement que l'OTAN, une fois encore, peut faire face à ces différences sans pour autant affaiblir nos missions principales, qui est d'assurer la défense de l'Alliance. Alors, j'ai été Premier ministre pendant 10 ans en Norvège, dans un gouvernement de coalition, et je peux vous dire sur cette expérience que c'était justement très utile pour pouvoir venir ensuite à l'OTAN. Stefan Leiter, une question sur votre réunion avec le président des États-Unis demain. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que le partage du fardeau et les dépenses de défense de l'Allemagne seront au sujet de vos discussions? Alors, tout d'abord, je n'aime pas parler d'une réunion qui n'a pas encore eu lieu. Je ne peux pas deviner ce que le président va me dire demain. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il va vous dire demain, mais j'imagine que le partage des charges sera un élément principal. J'imagine que le message du président Trump sera que les États-Unis restent engagés dans l'OTAN, que l'OTAN est important pour notre sécurité à tous, mais que dans cet esprit, il est important d'avoir un partage équitable du fardeau. Et cela, d'ailleurs, était un message répété par le président Trump depuis qu'il est président, même avant. Et mon message est que je suis d'accord avec lui. L'OTAN est une alliance forte, mais si l'OTAN veut rester une alliance forte, il faut qu'elle soit équitable. Et j'ai toujours insisté sur l'importance d'un accroissement des investissements, parce que nous avons besoin de ces capacités, mais aussi parce que les investissements dans le domaine de la défense constituent un investissement pour le renforcement de notre unité du lien transatlantique. Et le président, j'en suis convaincue, communiquera ce message. Je rappellerai que les alliés européens augmentent leur effort de défense, et cela s'applique à l'Allemagne également, et que si l'on examine cette accumulation, 41 milliards de dollars depuis 2016, donc à la fin de l'année, nous atteindrons à peu près 100 et 101 milliards de dollars, c'est quand même un chiffre important qui est donc une illustration de ce que font les alliés. Voilà, je conclue cette conférence de presse. J'espère vous revoir, certains d'entre vous, en tout cas à Washington, D.C. Merci.